France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Ils sont sortis le même jour et sont reliés entre eux par une figure commune. Deux disques arrivent, signés David Grimal, avec nous ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Cette figure commune, c'est celle d'un grand compositeur roumain. Alors on va ce matin l'appeler Georges Enescu à la roumaine et non pas Enescu comme on le dit à la française. Disque l'un avec l'ensemble Les Dissonances, le Caprice roumain, peu connu d'Enescu pour violon et orchestre. Et puis le poème d'Ernest Chausson ainsi que Digan de Maurice Ravel. On va expliquer les liens entre ces œuvres. Et puis sur l'autre album là, vous êtes tout seul, Les Six Sonates pour violon d'Eugène Isaïe, deux disques parus chez la Dolce Volta. Alors ce n'est pas la première fois que vous gravez de la musique seule au violon. Il y a déjà eu deux fois Bach. David Grimal, quand on est seul à son instrument, devant un micro, c'est un moment de liberté totale ou un moment de doute suprême, car on ne peut s'appuyer sur personne d'autre?
Mais c'est doit être les deux à la fois, et encore plus que ça, à mon avis, on passe par tous les états. Moi, je dirais que c'est un moment aussi de ressources. C'est-à-dire qu'on on se retrouve avec soi aussi dans le travail qui précède. Et donc, ça a été pour moi cet enregistrement des sonates d'Isaïe. Si je prends toute la période de travail, d'approfondissement de ces œuvres que je joue depuis très très longtemps, plutôt l'identifie comme un moment de bonheur et de ressourcement. Et bien que, une fois qu'on se retrouve sous les micros, l'Himalaya reste le même.
Il y a plusieurs micros pour enregistrer un violon tout seul?
Mais là, ça a été assez marrant parce qu'en fait, on a travaillé très rapidement avec plusieurs solutions. Et puis, la balance a été faite en 10 minutes. Donc, c'était très simple. Il y avait un couple et un micro proche.
Dans une église.
Voilà, une petite église à Paris.
Bach a écrit 6 sonates et partitas, 6 sonates chez Isaïe. Comment la figure écrasante, parfois peut-être, du maître allemand se retrouve-t-elle, infuse-t-elle cette œuvre de l'autre maître belge, maître du violon, deux siècles plus tard?
Oui, alors je crois que justement, je pense que Eugène Isaïe a trouvé le moyen de faire des révérences ou des références à Bach sans être écrasé. L'esprit de Bach est présent dans certaines de ses œuvres, pas dans toutes. Et je dirais qu'il le traite un tout petit peu à la manière de ce qu'on faisait néo-baroque, néo-classique à l'époque, ce que faisait Fritz Kreisler aussi, ce que faisait Stravinsky à sa manière également, de reprendre des danses anciennes et puis de les styliser comme on prononce Enescu en français. Lui, il prononce Bach à sa manière, dans son esthétique.
Et puis parfois, pour tuer le père, rien de tel qu'une véritable obsession.
Thank you.
Obsession, le premier mouvement de la deuxième sonate parmi les six que Jeanne Iseilly a écrite, toute dédiée à des violonistes. Et ici, c'est Jacques Thibault, interprété par David Grimal, notre invité ce matin. Le disque vient de paraître chez la Dolce Volta. Bon, l'Obsession, on l'a compris, c'est si.
Oui, c'est le prélude de la troisième partie de Bach. Et le Dies Irae qui fait irruption également dans toute la sonate.
Ces six sonates, Jeanne Iseilly les a portées en lui toute sa vie jusqu'à les écrire à la fin.
Il les a écrits pendant toute sa vie, je dirais plutôt. Et puis, donc ça l'a accompagné, effectivement, c'est son testament ou son legs plutôt, je dirais, au violoniste de l'avenir, puisqu'il a développé plutôt une technique vers l'expressivité. En fait, il a ouvert des portes de par son esthétique, et il a poussé le jeu du violon encore un petit peu plus loin, tout en proposant une synthèse un tout petit peu de tout ce qu'il avait. Et dans cette synthèse, on voit également les dédicataires de chacune des sonates. C'est une sorte de kaléidoscope, comme ça, où on est en compagnie de ses amis ou de ses disciples.
Comment il tient compte de ces six dédicataires? Il tient compte de leur jeu, de leur style?
J'ai l'impression qu'il tient compte, oui, de leurs racines, de leur personnalité. On voit la sixième sonate avec des accents espagnols qui est dédiée à Manuel Quiroga. La troisième qui est dédiée à Georges Enescu, puisqu'on en parlait comme pont, justement, avec l'autre enregistrement où on sent tout à fait l'atmosphère d'Europe centrale. Celle qui est dédiée à Thibault, dont on vient d'entendre le prélude, est très virtuose, très aérienne, très brillante. Et j'ai revu, d'ailleurs, cet été, un ami m'a montré une vidéo de Thibault qui jouait un mythe de Chimanowski. Donc il était tout près de l'écriture, enfin de la création de l'œuvre, qui est une œuvre très difficile, et qui jouait ça d'une manière mais absolument sublime, admirable. Enfin, j'avais oublié à quel point Jacques Thibault était un immense violoniste. Je tiens à le dire ce matin.
Justement, David Grimal, l'interprète en 2021, qu'est-ce qu'il fait de ces figures, de ces ombres, de ces fantômes quand il enregistre? Est-ce que vous avez, quand c'est possible, réécouté ces violonistes et musiciens?
Non, je les ai pas réécoutés parce que ils font partie, je dirais, pas tous, parce qu'il y en a certains dont on n'a pas forcément de témoignages, hein, mais ce monde-là fait un peu partie de mon ADN. C'est un peu l'enseignement que j'ai reçu presque en ligne directe quand j'étais au Conservatoire de Paris avec Régis Pasquier. Donc j'ai un peu baigné, je dirais, dans ce monde-là. Mais ça a plutôt réveillé cette culture et cette sensibilité à travers ce monde de couleurs de Jeanne Iseilly.
Jeanne Iseilly, vous l'avez un peu évoqué, en quoi c'est une figure vraiment marquante, quand on n'est pas violoniste, du violon moderne, un maître, et vous le disiez, une source d'inspiration pour l'avenir, pour les générations qui ont suivi jusqu'à vous?
Mais c'était pas seulement un violoniste, il a été violon solo de ce qui est devenu le Philharmonique de Berlin, mais qui à l'époque était l'orchestre du Gewandhaus, du Concerthaus de Berlin, pardon. Et à la fin de sa vie, il a été chef d'orchestre à Cincinnati. Il a fait du quatuor, il a créé énormément d'œuvres, il a composé, il a enseigné, et donc ça a été vraiment, moi, il me fait penser un peu à un baobab en Afrique, au milieu du désert, comme ça, où on vient s'abriter ou raconter des histoires. Et donc j'ai l'impression qu'il était une figure centrale de la vie musicale, et à travers le violon, qui était son instrument. Donc moi je parle de l'âge d'or du violon un tout petit peu à cette époque, et on voit qu'il y a une effervescence extraordinaire. Il a défendu Chausson, il jouait le poème de Chausson absolument partout. Chausson lui a dédié aussi son concerto pour piano, violon et quatuor à cordes. Il a créé des œuvres de Lequeux, de Jongen, de Ropart. Enfin bref, la liste est extrêmement longue. En plus de ses activités de compositeur.
Ce baobab, il vous inspire, vous qui êtes violoniste, qui êtes directeur artistique d'un orchestre, qui êtes enseignant aussi?
Mais il m'inspire, oui, ce sont des figures qui sont des phares et qui continuent à briller bien au-delà de leur vie.
Alors, transition, justement, cette quatrième sonate, elle est dédiée à Enescu.
La troisième
sonate, elle est dédiée à Enescu. On va l'écouter le début, puisque c'est une sonate d'un bloc, d'un mouvement, une ballade. Qu'est-ce qu'on va entendre ici? Quelque chose d'assez rhapsodique.
Voilà, une improvisation au départ, et puis ensuite une danse assez viscérale comme ça, et puis une danse, mais en fait avec des variations, et extrêmement virtuose, très très enflammée, une œuvre où il y a à la fois la terre et le feu.
Entendu la danse et puis l'improvisation au début dans cette troisième sonate de Eugène Ysaÿe qu'il a dédiée à Enescu, interprétée par David Grimal. C'est sur ce disque, La Dolce Volta, mais on le disait, un disque peut en cacher un autre. Il y en a un qui est orange avec un fond rouge et l'autre bleu avec un fond gris. Autre disque, cette fois avec votre orchestre, enfin l'orchestre dont vous êtes le directeur artistique, Les Dissonances, Enescu, Ravel, Chausson, et entre les trois, à nouveau, le lien d'Enescu. D'ailleurs, Ysaÿe et Enescu se connaissaient bien.
Ysaÿe et Enescu se connaissaient, et Enescu connaissait Ravel et Chausson. Il a été en classe au conservatoire avec Ravel, qui disait de lui qu'il était le plus fort en thème, donc en fugue, etc., et vraiment qui massacrait tout le monde. Et ça s'entend un tout petit peu dans la musique, alors pas particulièrement dans cette œuvre-là, qui est plutôt folklorique et qui n'a pas été terminée par Enescu, mais que ce soit dans ses symphonies ou dans son Octuor, qui est une œuvre de jeunesse absolument géniale, on entend qu'Enescu a cette puissance combinatoire absolument incroyable qui rend sa musique complexe, ce qui explique peut-être d'ailleurs qu'on ne fait que la découvrir aujourd'hui.
Enescu à l'Opéra de Paris en ce moment, Deep, son opéra créé en 1936 qu'on redécouvre pour beaucoup d'entre nous avec cette programmation. Vous revenez du festival Enescu qu'on a beaucoup suivi sur France Musique avec les reportages de Sophie Anastasio, c'était à Bucarest, ça s'est fini il y a quelques jours. Comment ça s'est passé? Comment vous êtes reçu, vous les Français qui jouent Enescu à Bucarest?
C'est génial, mais moi j'y vais presque à chaque édition, donc ça fait 4 ou 5 fois que tous les 2 ans, puisqu'il y a un concours de violon entre les deux, J'y vais soit seul, soit avec les dissonances. Et là, on a été reçu dans la série des grands orchestres du monde. On était très très contents entre le London Symphony et le Concertgebouw d'Amsterdam. On a donné deux concerts avec Daphnis, avec le Sac du Printemps, le Concerto pour orchestre de Bartok, l'Oiseau de Feu et Tzigane, Pochausson et le Concerto d'Enescu. Et c'était absolument formidable, avec un public extraordinaire, d'une concentration, d'une chaleur. On a été tellement touchés d'être là-bas et voilà, en sortant du premier concert, il y avait des gens de la radio qui m'attendaient, ils étaient sortis de leur camion et ils voulaient nous exprimer à quel point ils avaient adoré le concert, à quel point voilà, ils avaient entendu des sonorités qu'ils n'entendaient jamais dans les orchestres. Et donc voilà, il y avait vraiment, voilà, c'est avec le cœur là-bas.
Cette sonorité, c'est aussi parce que votre orchestre, redisons-le, les Dissonances, que vous avez créé il y a plus de 15 ans, vous en êtes le directeur artistique, mais vous n'en êtes pas le chef. Il n'y a pas de chef.
Alors,
toujours pas.
J'en suis le chef quand même, mais je ne suis pas...
Pas la baguette.
Je ne suis pas la baguette, donc je fais un travail de chef d'orchestre, mais quand on joue, il n'y a pas de repère autre que ce qu'on entend et la connaissance de l'œuvre que chacun a. Donc je dirais qu'on est tous chefs au moment du concert. Et ça crée effectivement une sonorité totalement différente. Puisque les vents, les bois, les cuivres, les cordes, les percussions, tout le monde s'écoute, tout le monde se connecte, tout le monde joue ensemble. Et donc il y a des transparences et des couleurs, des attaques qui sont totalement différentes d'un orchestre traditionnel. Et je crois que c'est ça qu'il voulait nous dire.
Et dans le travail, lors des répétitions, tout le monde peut faire ses propositions aussi, de tempo, de...
Malheureusement, non. Il peut y avoir un échange, et il y a des échanges, évidemment. Quand une de mes propositions n'est pas bonne, elle est tout de suite, elle ne fonctionne pas, tout simplement. Donc c'est très organique comme manière de travailler, mais on a très peu de temps, on n'a pas des moyens énormes, donc on a monté ces deux programmes en 4 jours, c'est-à-dire en huit services, et donc on n'a pas beaucoup de temps, chacun arrive très préparé, et on fait de la musique de chambre, on joue beaucoup, on s'écoute beaucoup, et puis après moi je sors de l'orchestre de temps en temps pour mettre au point un certain nombre de choses, mais là c'est plutôt l'intelligence collective qui est à l'œuvre, et j'ai vécu ça d'ailleurs la semaine dernière en Finlande avec un orchestre avec lequel j'avais jamais travaillé comme ça, au pays des chefs, et c'était une expérience très forte, et difficile pour eux d'ailleurs, mais ils sont ressortis avec un grand sourire.
Mais vous, David Grimal, vous n'avez jamais été avec une baguette dans les mains devant un orchestre sur une estrade?
Mais c'est pas la relation que je cherche à avoir ni avec la musique ni avec les musiciens, donc je ne le fais pas pour l'instant. En tout cas, je cherche une relation complètement différente.
On peut tout faire selon cet esprit-là.
Oui, je pense qu'on peut même faire des opéras. Enfin, oui, on peut tout faire. Absolument, on peut tout faire. Après, est-ce qu'il faut tout faire? C'est une autre affaire.
Retour à Enescu et à ce disque. Vous expliquez dans le livret, David Grimal, que vous êtes fasciné non seulement par le musicien, mais aussi l'homme, Georges Enescu. Qu'est-ce qui vous fascine chez l'homme?
Lorsque j'étais très, très jeune, j'ai lu une biographie qui a été faite sur lui, j'ai écouté sa musique, et j'ai eu le sentiment, alors je ne l'ai pas rencontré, mais j'ai connu des gens qui l'ont rencontré, j'ai eu le sentiment que c'était un homme qui était totalement dédié à la musique. Il était musique. Alors il jouait très très bien du piano aussi, hein. Cortot disait qu'il aimerait bien avoir sa... Il aurait bien aimé avoir sa technique. Menuhin disait de lui que la plus belle
compliment.
La plus belle introduction que Menuhin a jamais entendue du mouvement lent de la 10e sonate de Beethoven, c'était quand Georges Enescu l'a joué. Donc il jouait aussi du violoncelle, il jouait de l'alto évidemment, et il composait, il donnait des leçons. Il a été le professeur d'Ivry Kitlis, de Menuhin, de beaucoup de gens, enfin qui sont passés là entre ses mains ou entre ses oreilles. Et il a, d'une certaine manière, influencé aussi, comme Eugène Isaïe, beaucoup de monde. Et apparemment, c'était aussi un homme très bon, très généreux et très bon. Ce qui est rare, en fait. Et ça, j'aime bien de temps en temps en rencontrer.
Un grand compositeur et un chic type, donc Georges Enescu, avec ce caprice roumain, rarement enregistré, d'ailleurs reconstruit. Enfin, il y avait des parties qui étaient sans orchestration.
Oui, ça a été reconstruit, terminé par Cornel Tsaranu, qui est un compositeur qui vit à Cluj, en Roumanie. Et que j'ai rencontré d'ailleurs la première fois que j'ai joué ce Caprice roumain au Festival Enescu il y a 6 ans. Et il était venu au concert, il m'avait apporté une petite pièce pour violon seul qu'il avait écrite à la répétition générale le matin. Et je l'avais joué en bis le soir. Alors il était sous le choc. Et il a fait un travail énorme sur cette œuvre, et notamment de reconstitution et d'orchestration complète du final.
Bah nous, on va écouter le deuxième mouvement de ce Caprice roumain de Georges Enescu, David Grimal et les Dissonances. Le Caprice roumain de Georges Enescu, deuxième mouvement, Les Dissonances, et David Grimal au violon, notre invité ce matin. Le disque vient de paraître chez la Dolce Volta. Je signale que Les Dissonances seront par ailleurs en concert dans quelques jours au Havre, au Volcan. Ce sera le mercredi 13 octobre, et puis un peu plus tard à Paris, aux Invalides, à la cathédrale Saint-Louis. Ça, ce sera en décembre, le 16 décembre. Les dissonances créées il y a une quinzaine d'années, si je ne m'abuse, David Grimal, vous l'avez évoqué ici même il y a quelques mois. L'ensemble a découvert la fin brutale de sa résidence à l'Opéra de Dijon. Vous alertiez sur l'état de votre ensemble avec ses salariés à temps plein aujourd'hui. Quelle est la situation financière des dissonances? Est-ce que vous êtes en péril?
Oui, nous sommes en péril, en grand péril en fait, puisque cette sortie de résidence ne s'est pas faite d'une manière harmonieuse du tout. Ça a été extrêmement brutal. J'ai eu des concerts qui ont été annulés sans aucune raison. Et donc tout l'équilibre économique du projet est chamboulé en fait. Donc aujourd'hui on peut terminer l'année 2022 et puis il n'y a pas d'avenir. Alors la question que je pose, c'est un projet unique au monde qui, je crois, a trouvé son public. L'autre jour, on a joué dans une salle de la Philharmonie chauffée à blanc, c'était incroyable. Au Festival Nescou, il y avait 4000 personnes par concert qui étaient debout à la fin. Donc, est-ce qu'il y a une place pour ce monde, cet archipel qui a été créé, où se retrouvent des musiciens qui viennent de toute l'Europe, la fine fleur des jeunes musiciens français, des très grands musiciens qui viennent de tous les orchestres d'Europe? Est-ce que la France a une petite place pour nous? C'est la question que je pose. J'ai essayé d'avoir un rendez-vous au ministère pour l'instant en vain, depuis des mois. Tout ça reste totalement silencieux. On nous explique qu'il faut trouver des solutions et qu'après on boira une coupe de champagne. Malheureusement, les solutions n'arrivent pas. Donc je suis quand même confiant dans le fait que cet état d'esprit extraordinaire et cette énergie tellement positive, cette exigence, cette chose extraordinaire qui se passe à chaque fois qu'on se retrouve, ne peut pas s'arrêter. Parce que les musiciens et le public le veulent. Mais là, on a effectivement besoin d'un soutien, un vrai soutien des institutions.
Bah écoutez, l'appel est lancé sur France Musique à 8h56. David Grimal, donc vous recherchez en gros un autre port d'attache,
une résidence et un vrai soutien. Voilà,
le soutien pour que le projet,
parce que c'est un
différent des dissonances de David Grimal,
et puis c'est un grand orchestre, donc forcément c'est pas facile.
Je voudrais qu'on finisse en quelques secondes, si vous voulez bien, avec une autre saison, un projet différent, l'autre saison que vous avez créée au profit des sans-abri. Vous serez en concert d'ailleurs vendredi à l'église Saint-Leu à Paris avec Itamar Golan. Depuis la création de cette saison, malheureusement, on le voit quand on habite à Paris et dans beaucoup de villes, il y a de plus en plus de gens qui vivent dans la rue. Aujourd'hui, que peut la musique ?
Ben la musique, elle peut toujours, elle sauvera toujours le monde, la musique, mais elle ne sauvera pas tout le monde. Mais elle doit être là, et c'est effectivement, les injustices sont toujours plus nombreuses et plus grandes dans le monde, on ne peut que le regretter, mais c'est pas une raison pour baisser les bras, au contraire. Continuer à partager la beauté de notre art. Et c'est exactement le même esprit d'ailleurs que celui qui réunit les musiciens des dissonances, puisque les dissonances ont été créées dans cette église en 2004. Donc on est sur les mêmes valeurs.
Rendez-vous vendredi à l'église Saint-Leu, Saint-Gilles, à Paris pour ce concert. Et puis on vous retrouvera également en récital David Grimal le 4 décembre, Salle Gaveau, c'est le festival de la Dolce Volta, votre label, et le 13 décembre au Théâtre des Bouffes du Nord. Merci beaucoup d'être venu sur France Musique. Demain, notre invitée sera la chanteuse et chef de la Boston Camerata, elle est française, c'est Anne Azéma. Au générique de Musique Matin, il y avait Frédéric Kiefer, Swad Boukorsa, Marion Guillemet, Flora Sternadel, Pierre Matignon et Taïsia Froidure.
À réécouter sur francemusique.fr.